cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 25 avril 1996.
Je vous disais hier en terminant qu'il serait intéressant de bien noter la logique. Art des arts. Donc la logique joue un rôle très particulier sur le développement de l'intelligence. Sur le développement de l'âme informant le corps, c'est beaucoup plus le travail et l'instrument premier du travail. Alors il faudrait voir bien au plan génétique quel est le premier instrument du travail. Montre que le feu est la condition sine qua non de l'art. Prométhée, il ne faut pas l'oublier. Ce que Marx a repris dans son premier travail, première dissertation sur Prométhée, voler aux dieux. Le feu. Et cela a influencé, je crois, tout l'esprit de Marx. Que l'art permet à l'homme de devenir un surhomme et donc de lutter, enfin c'est Dieu, de lutter contre Dieu pour retrouver toute son indépendance. Voyez, c'est intéressant de voir comment l'art, qui ne structure pas immédiatement la personne humaine, cependant, l'art intervient par mode de disposition. L'instrument de la logique, c'est l'ordinateur qui permet d'être victorieux du temps et de l'espace, qui permet une virtuosité étonnante. Première découverte qui permet à l'homme d'être victorieux de l'espace et du temps. Parce que c'est toujours cette conquête de l'espace et du temps. Alors, l'art, je vous disais hier en terminant, c'est comme l'aspect du rayonnement de la personne humaine. Un rayonnement qui implique une victoire sur l'espace et le temps. Ça, je crois. Qui permet une victoire sur l'opacité de la matière. Par l'art, la matière se volatilise. Qu'elle se soumet à l'homme. l'homme la dépasse et la mesure. Alors, la matière, c'est d'abord la matière, le poids, la pierre, la matière extérieure à l'homme dans le prolongement du corps. Et la matière, c'est aussi la possibilité de croître dans les raisonnements. C'est pour ça que c'est la logique. Je ne dirais pas que la matière spirituelle, c'est l'universel, générique, mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça, l'universel générique. Parce que grâce à l'universel, l'homme domine et permet tous les possibles. C'est la conquête des possibles. Et c'est donc c'est l'universel. L'universel générique. L'universel fondamental. Le plus potentiel. Il y a ces deux potentialités, la matière et l'universel, qui sont de l'ordre de la disposition, qui permettent à l'homme une conquête, de gagner du terrain, de mettre sa marque sur la matière, son signe, de mettre sa marque propre sur le raisonnement, sur toute espèce de raisonnement. C'est de l'ordre de la disposition. Et le jour où la disposition veut déterminer, alors la disposition ne détermine pas. C'est pour ça que l'art ne détermine pas la personne humaine, mais permet à la personne humaine de rayonner. C'est pour ça que je dis de l'ordre de la disposition. Et on peut se servir de l'art pour la puissance. On peut se servir de l'ordinateur pour dominer. On peut se servir de tous les arts matériels pour dominer le monde physique, dominer le milieu physique dans lequel on est, dominer le milieu intérieur de l'intentionnalité universelle générique. Parce que l'universel analogique ne se laisse pas dominer, tandis que l'universel générique peut se laisser dominer. L'ordinateur peut nous permettre de dominer l'universel générique, mais pas l'universel analogique de l'être. Il est en dehors du jugement d'existence. Et il ne peut pas saisir le jugement d'existence. C'est pour ça qu'il est en dehors de l'universel analogique. La disposition, lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle touche quelque chose d'infini, peut devenir idole, c'est-à-dire elle peut déterminer, elle devient idole quand elle détermine. À ce moment-là, la personne humaine ne recherche plus la vérité, mais elle domine tout le domaine de l'intentionnalité. Et la personne humaine ne cherche plus l'amitié, mais elle essaie de faire des amis, des serviteurs. Je crois que c'est la destruction intérieure qui se fait par l'immanence, mais une fausse immanence. L'immanence de la logique est une fausse immanence. Personne humaine ne cherche plus à aimer. Et la recherche de la vérité, elle cherche à dominer. Et c'est la perversion de la personne humaine. Je n'insiste pas plus. Je ne fais qu'indiquer. Je crois que ce serait important à bien saisir ça. Voyons maintenant, à partir du je suis, la dernière précision que nous devons faire pour comprendre parfaitement ce fondement du conditionnement du lieu et du temps, c'est notre corps. C'est par le corps que l'art existe. C'est par l'imaginaire transformé par l'abstraction que la logique existe. La logique existe grâce à la quantité. C'est l'univocité. Et l'art existe grâce à la quantité, puisque c'est par la quantité que je modifie le monde. Je ne le modifie pas par le point de vue de la qualité, mais par la quantité. La qualité m'échappe toujours, tandis que la quantité, je peux la travailler. Elle implique la potentialité. Je dois donc maintenant essayer de découvrir la place du corps dans la personne humaine. C'est pas l'art, c'est le fondement de l'art. Et je dois aller jusque-là. Parce que quand je réfléchis sur mon je suis, dans mon je suis est présent mon corps. Mon corps fait partie de mon être. Et mon corps n'est pas seulement un avoir. Mais il est la frontière de l'être. Il est la limite de l'être. Mais quand vous dites je suis dans mon corps, et je suis mon corps, vous ne dites pas que votre corps, c'est pas vous. Quand on vous coupe un bras, c'est une mutilation de votre individualité personnelle. C'est bien évident. Quand vous êtes handicapé dans le corps, c'est vous. C'est pas seulement l'avoir. C'est plus intime, bien plus. L'avoir, c'est ce que j'acquiers. Mon costume me veut en avoir, c'est pas mon être. Même l'habit religieux, c'est pas pas votre être. C'est pour ça qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Si c'était votre être, on dirait l'habit fait le moine. Vous usez de l'habit. Vous usez de votre corps, mais d'une façon toute différente. Et c'est peut-être là, vous voyez, où il y a les confusions aujourd'hui, constantes. On use de son corps comme on userait d'un instrument, ce qui est très platonicien. On use de son corps comme on use de quelque chose qui fait partie de notre propriété, d'un instrument, d'un avoir. L'usage du corps est un usage très particulier, puisque ça touche mon être, ça fait partie de mon être. Évidemment, c'est aussi un avoir, puisque la mort qui me sépare de mon corps me sépare de quelque chose qui est mien. Séparer de mon âme. Mon âme est source de mon être. À ce point de vue-là, le corps est effet de cette source. Il n'est pas source. Et donc l'être plus lointain que l'âme qui est ma substance. Mon corps n'est pas ma substance. Donc il est mon être, mais un être périphérique. C'est vrai, il est un être périphérique qui permet toutes les relations. Grâce à mon corps, je suis en relation avec le monde physique. Je suis poussière et je retourne à la poussière. Ça, c'est grâce au corps. Je suis lié au monde physique. Et je dépends du monde physique par mon corps. Je peux être en relation avec ceux qui sont proches de moi. Je peux travailler avec eux. Je peux les aimer d'un amour d'amitié réciproque. Donc, le corps a un rôle très particulier et je crois qu'il faut distinguer trois niveaux du corps au point de vue de la personne humaine. On va essayer de voir ces trois niveaux. Au niveau de l'être, mais au niveau de l'être, le corps est source du conditionnement substantiel. Et je crois que c'est ce qu'on doit dire. On va essayer de justifier ça, du moins de le comprendre. Source d'un conditionnement substantiel. Ça paraît contradictoire à première vue. Mais il y a quelque chose comme ça dans le corps. Vous voyez, être et avoir. Au point de vue de l'amour. D'abord, au point de vue de la connaissance, au au point de vue de l'amour, au point de vue du travail, c'est-à-dire au point de vue de ma vie. Le corps joue un rôle particulier dans le développement de ma connaissance, dans le développement de mon amour, dans le développement de mon travail. Il y a un rôle différent. Alors, regardons d'abord le corps au niveau métaphysique. Puisque la personne est au niveau métaphysique, je suis. Je touche l'être. Dans mon je suis, mon corps est intégré. Vous n'avez pas le droit de dire que votre corps ne fait pas partie de votre je suis. Si vous avez la tentation de le dire, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez une espèce de vieux manichéisme, de vieux platonisme, qui fait dire le corps est le tombeau de l'âme. Vous comprenez que si vous dites que le corps est le tombeau de l'âme, le corps ne fait pas partie de votre être. Vite, vite, que je le rejette. Vite, vite, que je l'abandonne pour être parfaitement moi-même. C'est la tentation qu'on a quand on vieillit, quand on est jeune, non ? Et quelquefois on vieillit avant l'âge. C'est la tentation d'un vieillissement, ça. Parce qu'on sent davantage combien le corps conditionne. Le corps nous fait perdre notre souplesse. Et c'est le conditionnement qui devient une limite. Le conditionnement devient très vite limite quand il y a un manque de souplesse. Je peux aller jusque-là, pas plus. Vous savez, le gosse qui fait qu'il peut faire le pied de nez. Avec son pied, il touche son nez. Alors ça, c'est... Demandez ça à un vieillard de le faire. Hein. Alors, il aura abandonné ça. C'est pas mal, là, du reste. C'est pas un défaut. Mais c'est quand même un manque de souplesse. On voit des gosses en ski qui font des pirouettes avec leur ski. C'est extraordinaire de voir ça. La souplesse du corps. Donc, le corps fait partie de mon être, ça. Je crois qu'il faut... Première grande affirmation. Il faut y réfléchir là-dessus. C'est mon être. Je ne peux pas le changer. Il y a un lien de nécessité qui s'impose. Un lien de nécessité qui fait que, vous voyez, par le corps, la matière, la quantité est intégrée, non pas dans le esti de l'être. Mais la matière est intégrée dans le pos de l'être. Et c'est peut-être là où vous avez la distinction la plus subtile et la plus précise pour comprendre la place du corps. Quand vous cherchez ce qu'est l'être, vous dites que l'être est substance, que l'être est acte. Mais que l'être peut être un être en puissance. Et l'être en puissance n'est pas du non-être. L'être en puissance, c'est le conditionnement substantiel de l'être. Et c'est bien mon corps. Le conditionnement, c'est le pour, c'est le comment. Et ce conditionnement a sa racine par rapport à ma personne, par rapport à mon je suis. Ce conditionnement à la racine, c'est mon corps. Le corps a eu ce privilège. Alors oui, c'est là où c'est très délicat. A eu ce privilège d'exister en fonction de mes parents. Dans la dépendance vis-à-vis de mes parents. C'est le corps qui permet cette dépendance radicale ou qui exige. C'est plus juste de dire qui exige. Cette dépendance radicale, fondamentale, à l'égard de mes parents, de mes propres parents. À l'égard d'Adam. Pourquoi, de fait, Thomas d'Aquin insiste tellement, et pas seulement Thomas d'Aquin, mais tous les pères de l'Église, insistent tellement de montrer que nous avons tous une souche commune. Adam. En métaphysique, quand on dit que, au niveau du devenir, la potentielle, l'être en puissance est premier, au niveau du devenir, dans l'ordre du devenir, l'être en puissance est premier, c'est par le corps que je suis un être en devenir. C'est par le corps. Je suis un être en devenir et en croissance. Alors, y a-t-il, je pose la question, parce que la question se pose, y a-t-il dans ma vie humaine, et par rapport à ma personne humaine, y a-t-il eu un moment de mon exister où j'étais tout entier relatif à mes parents ? Sans avoir le principe propre de mon être, c'est-à-dire mon âme. Oui, c'est une question intéressante au point de vue de la personne. Y a-t-il eu, dans mon existence actuelle, y a-t-il eu un moment où mon être embryonnaire était totalement dépendant de mes parents. Si l'âme n'a pas été créée dès le premier moment de la conception biologique, il y a donc un moment où j'ai été totalement dépendant de mes parents. Quant à mon exister, parce que je n'avais pas encore d'âme. Et c'est par la vis generativa de mes parents que j'ai existé. Oui. Donc dans mon devenir, qui commence dès le point de départ, dès le premier moment de la conception, où il y a un chiffre, j'ai le chiffre biologique, j'ai mon originalité d'être humain. Dès ce point de départ, je n'ai pas dit je suis, mais objectivement, j'existais. mes parents, et pourtant totalement dépendant d'eux, et relevant entièrement de l'atavisme, existant en fonction de ma source. Je pose la question, je ne l'affirme pas, mais on doit se poser la question au plan philosophique. Est-ce qu'il y a eu ce moment, vous voyez, réservé au devenir de mon être par mon corps et en dépendance de mes parents? Une dépendance telle que j'étais relatif. C'est possible, c'est le propre du corps de faire ça, de faire qu'on est un être en devenir. Et un être en devenir, la potentialité est première. Et donc il y a un moment où la potentialité de mon être est d'exister grâce à mes parents et par mes parents, c'est une chose très possible. C'est pas du tout impossible, métaphysiquement parlant. C'est important de le comprendre, ça. Oui. Et là, je comprends comment le corps est donc bien. Conditionnement substantiel par la matière. L'être de la matière, c'est le devenir. L'être du corps, c'est le devenir. Donc c'est le conditionnement substantiel, radical, matériel. Au moment où l'âme a été créé, le corps a eu son existence propre par l'âme. Le corps est devenu mon être par l'âme. Avant, il est l'être, il a son indépendance, une indépendance relative aux parents. Dès que l'âme est créée, il a sa propre existence. Il existe par l'âme. Mais il continue d'être ce qui conditionne mon exister et qui le conditionne fondamentalement. C'est pour ça que je peux dire que c'est le conditionnement substantiel. Et durant toute ma vie terrestre, mon corps reste ce conditionnement substantiel. Ce qui permet de comprendre comment la mort peut arriver. La mort ne s'explique que par le corps et non pas par l'âme. L'âme ne se fatigue pas, l'âme ne vieillit pas, elle vieillit à cause du corps, à cause de ce conditionnement substantiel. Ce conditionnement substantiel peut devenir tel qu'à un moment donné, l'âme humaine, mon âme, n'arrive plus à le porter. Parce que c'est mon âme qui porte mon corps. Et quand je suis en pleine santé, en pleine montée de santé, en pleine croissance de santé, c'est mon âme qui est victorieuse du conditionnement substantiel du corps. et mon âme étant victorieuse du conditionnement substantiel de mon corps, porte allègrement mon corps. D'où la souplesse, d'où l'agilité, d'où cette sorte d'indépendance et d'autonomie, et cette joie de pousser autonome, indépendant, libre. Tout ça, c'est l'âme victorieuse du corps, victorieuse de ce conditionnement du corps. À un moment donné, cette liberté tend à diminuer à cause du poids du corps. Le corps n'est plus victorieux. Il y a des choses qui ne se refont pas. Il y a des, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui les stress, qui sont beaucoup plus longues à digérer. On les porte plus longuement. Alors on commence à avoir des insomnies, comme on dit. Les insomnies, c'est le conditionnement du corps. Hein. Si vous voulez comprendre ce que c'est. Vous bien dormir, hein. Vous n'y arrivez pas. Et plus vous le voulez, moins vous y arrivez. C'est très curieux. Il faut arriver à ne plus le vouloir pour laisser le conditionnement du corps. Et c'est sûr que les stress dans lesquels le monde d'aujourd'hui est plongé fait que quelquefois on a beaucoup de peine à cause de l'imagination. L'imagination est du côté du corps, pas du côté de l'âme. Alors il y a un poids très lourd qui nous accable et qui risque quelquefois de nous accabler tellement qu'on ne peut plus se reposer. Mais le corps, comme il est du côté de la matière, est tout le temps en mouvement. C'est l'âme, source de vie, qui peut se reposer. C'est l'âme, source de vie, qui demande le repos. Elle demande le repos quand elle est victorieuse. Quand elle n'est pas victorieuse, elle ne se repose plus. Parce qu'elle n'a plus assez de force pour être victorieuse. Ce qui explique les insomnies des vieillards. Tant qu'il y a le sommeil, ça prouve qu'il y a encore la jeunesse. Tandis que l'insomnie est le signe d'un vieillissement. L'emprise de l'imaginaire. Oui, le vieillissement, métaphysiquement. Comment définir le vieillissement? C'est le conditionnement qui l'emporte sur la finalité. Que voulez-vous? C'est ça qu'il faut voir. C'est des petits vieux, parce qu'ils vivent uniquement du conditionnement, et qu'ils ne vivent pas de la finalité. La finalité me donne la jeunesse. Oui, c'est la cure de jeunesse, c'est la finalité. C'est pour ça que la redécouverte de la finalité maintient la jeunesse d'âme. Et donc maintient l'âme qui porte le corps. Et le corps ne fait que conditionner et ne détermine pas. Quand le corps commence à déterminer, vous commencez à être un petit vieux. Parce que c'est le conditionnement qui l'emporte sur la finalité. Vous voyez, au fond, la lutte fondamentale en nous, c'est ça que les psychanalystes devraient comprendre. La lutte fondamentale en nous, c'est la lutte entre l'âme qui finalise, qui se finalise, et qui est capable de se finaliser, et comportement substantiel du corps qui peut par l'imagination s'imposer Si l'âme est le soleil intérieur, l'imagination vient obscurcir le soleil. Une étoffe d'écrin qui obscurcit le soleil, c'est l'imaginaire. Et quand vous êtes dans l'imaginaire, il n'y a pas de repos. L'imaginaire n'a pas de repos. Il aime tout le temps de se mouvoir. Donc, au plan métaphysique, vous voyez, il y a deux grandes affirmations qu'on doit faire par rapport au corps. Que mon corps est mon être. Et que mon corps est mon conditionnement substantiel. Et oui, je mets les deux exprès ensemble. Conditionnement, c'est de l'ordre du devenir. Substantiel, c'est de l'ordre de la matière. C'est la matière, la cause matérielle, qui fait invasion. Philosophie en métaphysique par le pos. Au plan purement métaphysique du tiesti, il n'y a pas de cause propre de la matière. Il n'y a pas de cause propre matérielle. Donc, j'ignore le corps. J'ignore la matière. Elle ne pénètre pas dans mon analyse propre métaphysique. Mais dans le pose, le comment de l'être, alors oui. Je n'expérimente que des êtres matériels. Parce que mon expérience porte toujours sur le comment et non pas sur le tiesti. Alors c'est intéressant de voir la frontière. Des ténèbres et de la lumière. La lumière, c'est le tiesti. Et les ténèbres, c'est le pos. Vous voyez là comment la matière intervient par le pos. Et comment une philosophie, à la manière de Kant, à la manière d'Auguste Comte, qui ne veut plus chercher le tiesti et qui ne cherchait que le pos, c'est le positivisme, est une philosophie qui nécessairement reste entièrement dépendante de la matière et ne peut saisir que des êtres matériels. Et donc, on veut tout expliquer par la causalité matérielle, par le pos, parce qu'on étudie que le pos, le comment. Mais c'est pour ça que c'est si important, au plan métaphysique, de bien saisir la place du corps. Regardons maintenant du côté de l'être, du côté de la vie. Humaine implique le point de vue de la vie. C'est sûr. C'est un être vivant et un être spirituel. Au point de vue de la vie, le corps permet et réalise le point de vue d'être source de fécondité. Alors là, vous voyez, le point de vue du corps n'est plus seulement conditionnement, il est source. Mais dans le conditionnement, de vie. Le point de vue de la procréation relève du corps, de la vie végétative. Et même finalise la vie végétative. Et donc là, je comprends que le corps joue un rôle déterminant au point de vue de la procréation. C'est-à-dire déterminant au plan de l'activité du père et de la mère. Si l'âme n'était pas créée par Dieu, je dirais, ce serait tout à fait juste de dire que le corps joue un rôle déterminant pour toutes les espèces animales. Le corps joue un rôle déterminant. D'où la possibilité de la sélection et d'arriver à une race plus parfaite. Ce qu'on cherche aujourd'hui. On dit que la petite vache bretonne doit disparaître. Parce qu'elle n'est pas assez féconde. Pauvre petite vache bretonne. Alors on cherche des races américaines. Je connais bien des amis qui font ça. Et quand ils viennent, ils m'en parlent. Et ils versent des pleurs. Et ils sont obligés d'accepter ça. La sélection. Il y a sélection parce que la matière détermine. Pas sélection si la matière ne déterminait pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas sélectionner l'homme. Les positivistes le cherchent, mais ils n'arriveront pas. On le sait. Parce que c'est l'âme qui détermine. Et elle est créée par Dieu. Et vous ne pourrez pas sélectionner la sagesse de Dieu. Là, quand je dis qu'au niveau vie végétative, au niveau procréation, le corps détermine, c'est pas entièrement vrai. Il dispose encore. Mais je peux le dire, voyez, qu'à partir du moment où j'ai découvert que l'âme était créée par Dieu, je ne peux pas le dire avant. Et ça, c'est intéressant de voir qu'au fond, la création, la découverte de la création de Dieu me permet de montrer que le corps, jusqu'au bout de son activité, ne détermine pas. Pour un positiviste, le corps détermine. Et la découverte de toute la causalité biologique détermine. Et on prétend par là pouvoir tout expliquer dans l'homme. Alors que si l'âme est créée par Dieu, le corps ne fait que disposer jusque dans la procréation. Ce qui fait comprendre qu'il n'y a pas, au sens strict, de finalité de la vie végétative. De finalité humaine. Puisque c'est Dieu qui crée l'âme. C'est l'intervention de Dieu qui détermine et qui finalise. Donc c'est plus l'homme. l'homme ne se donne pas à lui-même sa finalité. Jusque dans la procréation. Il le voudrait beaucoup. Vous voyez, et c'est ce qu'on prétend aujourd'hui. On arrivera à sélectionner l'humanité, à garder les gènes, les meilleurs, sélectionnés, et on aura une humanité où, comme disait l'autre, on n'aura plus que des prix Nobel. L'humanité se terminera en prix Nobel. Sélection de l'humanité. C'est quand même très important, ça. Et on comprend pourquoi le positivisme s'acharne à dire que l'âme n'est pas créée par Dieu. Dieu n'existant pas, il n'y a pas d'âme. Pour donner à l'homme, par son corps, cette dignité de se finaliser. Par la sélection. Alors que si l'âme est créée par Dieu, l'homme ne peut qu'être serviteur par le corps, uniquement disposé. Vous voyez, là on touche le cœur de tout ce problème de la procréation artificielle, la fécondation artificielle, la vivette. Si on ne voit pas dans cette lumière-là, on ne comprend pas l'attitude de l'Église. Tandis que si on voit ça, on dit « Ah oui, oui, l'Église est gardienne de l'alliance de Dieu avec les hommes dans la procréation. » Et dans la procréation, l'alliance de Dieu avec les hommes, c'est Dieu qui crée l'âme. Alors qu'on voudrait que ce soit le corps qui détermine. Dans la vie passionnelle, affective, imaginative, le corps joue un rôle capital. Il ne finalise pas, puisqu'il n'y a pas de fin au niveau de la vie végétative, au niveau de la vie sensible, mais il détermine les passions. Donc, au niveau passionnel, le corps joue un rôle capital. Et il faut bien distinguer le point de vue sexuel et le point de vue passionnel. Au point de vue sexuel, c'est le conditionnement. Au point de vue passionnel, c'est la détermination. C'est vrai que l'affectivité passionnelle est déterminée par le corps. Et la passion joue un rôle déterminant sur le corps. Par l'imagination, du reste. Il y a là quelque chose d'extrêmement important à comprendre, surtout aujourd'hui. Parce qu'on pourrait dire que, en réalité, c'est la passion qui domine. On met tout ça sur le dos sexuel. C'est vrai, c'est pas vrai. Le point de vue sexuel est très déterminé. La passion ne l'est pas. C'est la passion qui veut se servir du sexuel pour pouvoir aller toujours plus loin. Mais c'est la passion qui détermine. C'est la passion qui oriente. C'est la passion qui invente par le point de vue imaginatif. Ce n'est pas le point de vue sexuel. Et c'est important à comprendre. Parce que le point de vue imaginatif peut arriver, par sa détermination, à affaiblir le point de vue sexuel. parce que l'affectivité veut, l'affectivité passionnelle veut tout prendre en déterminant par le corps. Vous voyez, la passion joue un rôle de disposition par rapport à l'homme. Et dans ce rôle de disposition, le corps détermine. Donc quand je dis que le corps détermine la passion, il faut préciser tout de suite que la passion est de l'ordre de la disposition et que le corps détermine cette disposition. C'est évident que c'est dans l'ordre passionnel que le corps se manifeste le plus. On est un petit coq avec une belle crête, point de vue passionnel. On est un lion, on est une lionne, d'un point de vue passionnel. Et c'est pour cela, remarquez, c'est pour cela que les stoïciens disent que la passion est mauvaise à cause de ce lien très fort avec le corps. Et vous vous demandez pourquoi les stoïciens disent-ils que la passion est mauvaise? À cause de ça. Mais ils ne voient pas assez que la passion peut être entièrement dominée par l'esprit. Alors plus on s'élève, voyez, plus le corps après va diminuer de place. Mais la place prédominante du corps, c'est dans la passion.